foi. Mais si vous le voulez bien, on va parler du sacrifice d'Abraham, qui n'est pas un épisode évident pour tous. On sait tous, ça fait partie de la culture biblique de base, que Abraham a failli sacrifier son fils Isaac et que l'ange du Seigneur l'a retenu. Le déroulement des faits est parfaitement clair, parfaitement intelligible, et nous avons tous tendance, et moi le premier, à considérer ce récit comme une image un peu exotique pour une sensibilité de notre siècle. C'est un épisode qui se situe 1900 ans avant la naissance du Christ, c'est-à-dire très loin de nous, dans les prémices de la naissance biblique du judaïsme, et c'est une portion de la Bible dans laquelle il est difficile d'être absolument convaincu de l'exacte historicité des événements. Mais surtout, cet événement a tendance à nous scandaliser. Nous sommes évidemment horrifiés par l'image d'un homme qui lève son couteau pour égorger son fils, même il y a 40 siècles, même dans la Bible. Et pourtant, Abraham n'est pas n'importe quel patriarche. Dans l'histoire des religions, il est le patriarche décisif pour le judaïsme, pour le christianisme, pour l'islam. Et cet épisode est extrêmement important dans ces trois religions. La ligature d'Isaac, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle dans le judaïsme, la ligature d'Isaac est un événement important dans la théologie juive. Et les musulmans connaissent évidemment cet épisode qui fonde l'Aïd el-Kébir, qui est une des fêtes les plus importantes du calendrier de l'islam. En même temps, les historiens de la Bible nous apprennent que ce récit est certainement le remploi d'un texte venant peut-être d'un culte païen, mais qu'en tout cas, c'est certainement un texte militant, voire polémique, entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le judaïsme, quand le judaïsme décide d'abandonner les sacrifices humains. Donc, quand survient cet épisode, Abraham a conclu son alliance avec l'Éternel, sa deuxième alliance, parce qu'il y a eu une alliance avant, une première alliance pour la naissance d'Ismaël, puis 13 ans plus tard, une alliance pour la naissance d'Isaac. Isaac est le premier des humains circoncis 8 jours après sa naissance. La Bible ne le souligne pas de cette manière, mais c'est un moment totalement décisif pour la naissance du judaïsme. Et à la naissance d'Isaac, Abraham a 100 ans. L'épisode qui nous intéresse, selon des sources antiques non bibliques, se situerait quand Isaac a 25 ou 37 ans. C'est important, ce n'est pas un petit enfant, c'est un homme. Il aurait la possibilité de résister physiquement à la ligature, même si Abraham, à cette époque-là, a 125 ou 137 ans. Et ce qui est peut-être le plus gênant pour une perception contemporaine, pour une perception de notre siècle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un événement brutal, brusque, soudain. C'est-à-dire que ce n'est pas un ordre du Seigneur, et aussitôt, Abraham agit. On a lu le texte. Il réfléchit. Le lendemain matin, il convoque les serviteurs, il scelle son âne, il prépare le bois, il chemine plus d'une journée, puisque c'est le surlendemain qu'il arrive en vue de la montagne. Et pendant tout ce temps-là, il a forcément en tête un but, qui est le sacrifice de son fils. Et au passage, d'ailleurs, nous qui apprenons à nos enfants à respecter la vérité, nous qui vivons dans un temps historique assez obsédé de transparence, dans le monde politique, dans le monde économique, dans nos familles même, nous sommes un peu embarrassés par ce qu'est Abraham, le patriarche. Il dissimule, il ruse, il ment aux serviteurs. Il dit aux serviteurs qu'il reviendra avec Isaac, alors qu'il est venu pour tuer Isaac. À Isaac ensuite, où est l'agneau pour le sacrifice? Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. C'est pas exactement un mensonge techniquement, mais ça y ressemble. Et au passage, et c'est certainement un des points les plus importants de ce texte, Au passage, vous notez qu'il fait porter à son fils le bois sur lequel il doit être sacrifié. Techniquement, c'est des grosses bûches. On va faire un bûcher. Isaac sera attaché sur le bûcher, donc ça demande quand même pas mal de bois, sera attaché sur le bûcher, égorgé, puis brûlé. C'est ça un sacrifice. Et ce n'est pas un détail, parce que quand le Christ est crucifié, chacun connaît cette histoire. Évidemment, sur le chemin du Golgotha, tous les gens qui voient passer le Christ avec sa croix sur l'épaule ne sont pas ni juifs, ni lettrés, ni savants. Mais c'est une histoire fondamentale du judaïsme qui est en train de se rejouer. Et les exégètes chrétiens ont beaucoup réfléchi et débattu dès l'Antiquité pour savoir où est la montagne de Moria sur laquelle Abraham emmène son fils. Et la montagne de Moria semble être le mont du Calvaire à Jérusalem, là où le Christ a été crucifié. Et alors Jésus accomplit le rite auquel a échappé Isaac. Et dans les trois traditions monothéistes, on lit le sacrifice d'Abraham comme une exaltation de l'obéissance. Il se soumet à l'ordre de l'Éternel, ce qui fait de lui le premier musulman. Selon la tradition de l'islam, islam voulant dire littéralement soumission, le texte biblique, le nôtre, est explicite puisque l'ange qui retient le bras d'Abraham lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu puisque tu ne l'as pas refusé ton fils unique. Tu respectes l'autorité de Dieu. » Alors, évidemment, instinctivement, on cherche à décaler un peu l'axe et à ne pas voir dans ce texte uniquement l'obéissance d'Abraham. Il y a une abondante exégèse juive, mais aussi chrétienne, sur le fait qu'Abraham n'hésite pas à ligoter son fils et à lever le couteau du sacrifice, puisqu'il sait que l'Éternel, jamais, ne permettra qu'il meure. C'est ce que dit Paul, par exemple. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 17-19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Une sorte de résurrection. Évidemment, Paul réserve naturellement la résurrection au Christ, mais le parallélisme est flagrant. Une sorte de résurrection. Et c'est pour ça que ces trois textes, Marc et l'Épître aux Romains, sont réunis aujourd'hui, puisque le sacrifice d'Abraham est en soi une annonce de la résurrection du Christ. Alors on peut discuter longuement du relativisme de toutes les valeurs, même les valeurs dites universelles, mais le chapitre 22 de la Genèse établit une espèce de tension entre l'amour paternel, une espèce d'amour naturel, et l'obéissance à Dieu. Et une tension qui met en jeu aussi un certain nombre de valeurs qui sont précisément celles sur lesquelles nous, chrétiens occidentaux en ce siècle-ci, des valeurs avec lesquelles nous avons des difficultés. L'absolutisme du patriarcat, le droit de vie ou de mort sur d'autres humains, a fortiori son propre enfant, une stratégie sociale d'une absolue verticalité. Et c'est pour ça que ce sacrifice, ce passage de Genèse, peut apparaître à certains croyants, à certains d'entre nous, comme un résidu d'un très vieux monde, comme une trace, difficilement intelligible d'une autre civilisation. Alors, on peut trouver un indice dans une culture populaire. En 69, Leonard Cohen, que je suppose vous êtes un certain nombre à connaître, a écrit « Story of Isaac ».« Story of Isaac » est une chanson, une des plus célèbres de Leonard Cohen, qui raconte le sacrifice vu du côté d'Isaac. Ça commence par « Mon père a ouvert la porte doucement ». Et cette chanson paraît en pleine guerre du Vietnam, mais elle est aussi écrite par un juif pieux, un juif pratiquant, un juif croyant, un juif savant, un juif lettré, qui écrit. et qui écrit à propos de ce qui lui semble être l'ambiguïté foncière de tous les plans, de toutes les visions, ce sont les mots qu'il utilise dans sa chanson, de toutes les philosophies, de toutes les idéologies, de toutes les croyances qui mettent en jeu la vie des autres. Et si vous connaissez la chanson, vous vous souvenez forcément du dernier couplet dans lequel il dit « I will kill you if I must, I will help you if I can ». Cela donne en français « Je te tuerai si je le dois, je t'aiderai si je le peux. Quand tout retombera en poussière, je t'aiderai si je le dois, je te tuerai si je le peux. » Et le dernier vers de « Story of Isaac » est d'une franche violence morale, certes poétique, mais pas biblique, parce que c'est un animal qui n'est pas dans la Bible. Ils disent « A peacock spreads his fan », le paon fait sa roue. Le paon qui fait sa roue, c'est Abraham. Il s'en prend à la fierté d'Abraham, à sa relation verticale avec Dieu, dans laquelle la soumission est un orgueil, l'obéissance est une vanité. Ok, nous sommes dans la pop musique. Quelques années plus tard, chez nous, chrétiens, Noël Colombier, prêtre catholique, chansonnier de Dieu, écrit « Abraham, Dieu t'appelle ». C'est un cantique que nous connaissons tous. C'est le numéro 767 dans Arc-en-Ciel, c'est le numéro 5501 dans les recueils Alléluia. Nous le connaissons tous, nous l'avons tous chanté. Et il rappelle le chemin d'Abraham tout au long de sa vie. Abraham, Dieu t'appelle, Abraham, il faut partir, il faut prendre la route pour avancer dans la foi. Et cet Abraham-là, cet Abraham de ce cantique, cet Abraham de nos cantiques, ne fait jamais halte sur la montagne pour sacrifier son fils. C'est un Abraham qui nous est proche, c'est l'Abraham dont les moniteurs du jardin biblique et de l'école biblique parlent à nos enfants. C'est un Abraham qui ne nous pose pas de problème, parce que, entre-temps, le fils sacrifié, nous le connaissons. Ce n'est pas celui que son père a attaché au bûcher, c'est celui que les hommes ont cloué sur la croix. Ce n'est pas un objet à la disposition d'un père dans une civilisation archaïque, dans sa relation personnelle avec l'Éternel. C'est le fils unique du Dieu créateur. Et au fond, ce texte nous parle de l'évolution de l'Alliance, d'une histoire qui se joue à travers les siècles et à travers la Bible entre les hommes et Dieu. Le sacrifice demandé à Abraham, c'est celui auquel plus tard va consentir le Père, notre Père. Notre Père qui sacrifie son Fils Jésus pour sauver toute sa descendance, l'humanité. Et en fait, ce texte vénérable nous rappelle à quoi nous invite le Christ, ici et maintenant, dans ce siècle et tel que nous sommes. Nos pasteurs, les pasteurs de cette paroisse, citent à peu près tous un jour dans leur carrière ici une question que posait Karl Barth, le théologien allemand, à ses élèves en leur demandant quel est le contraire de la foi. Et Barth raconte à quel point les élèves étaient paniqués. Le contraire de la foi, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'athéisme. On est dans les années 50, c'est le communisme. Le matérialisme, l'incrédulité. Et Karl Barth répondait, non, le contraire de la foi, c'est la religion. La foi croit. La religion est incrédulité. D'ailleurs, la preuve que la religion est incrédule, c'est qu'elle a besoin de signes, elle a besoin de rites, elle a besoin de sacrifices. Et c'est précisément ce que nous montre le sacrifice d'Abraham. Et c'est pour ça que nous pouvons parler à nos enfants du chapitre 22 de la Genèse, sans craindre que l'Éternel de l'Ancien Testament ne les terrifie. Le paradoxe, c'est qu'Abraham montre la foi au moins autant que l'obéissance. Certes, évidemment, l'obéissance. Il fait le geste qui lui a été commandé, il est précautionneux, il est scrupuleux, il accomplit le rite. Mais l'ange qui suspend son geste annonce aussi que ce geste est désormais inutile, que le sacrifice n'a plus de sens. Évidemment. Il faudra encore le reste de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une vingtaine de siècles, et la mort du Christ, pour annoncer une nouvelle alliance, celle sous laquelle nous vivons, qui est l'alliance de la croix. Mais nous pouvons lire le sacrifice d'Abraham comme cette annonce-là. Le seul sacrifice qui vaille est celui accompli une seule fois et à jamais sur la croix, la religion des sacrifices et des observances n'est pas nécessairement dans le plan de Dieu. Le commandement n'est pas de sacrifier des vies, et surtout pas la vie des autres. Et ce que sacrifie Abraham, ce qu'il sacrifie non pas il y a 3900 ans, mais ce qu'il sacrifie aujourd'hui, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est l'obéissance aveugle. C'est le rite pour le rite. Il sacrifie peut-être le religieux au profit d'une alliance de la foi. Il ne le sait pas, évidemment. Mais puisque ce récit est dans notre Bible, nous pouvons le lire ainsi, et nous le savons. Le sacrifice d'Abraham nous montre une humanité religieuse et préfigure une humanité mise en mouvement par la foi. L'ange qui arrête le geste d'Abraham annonce le renversement de la perspective. L'alliance entre Dieu et les hommes, passe de l'obéissance à la foi, de l'impitoyable rectitude des patriarches au consentement de Jésus face à la croix. On passe d'une alliance fondée sur l'appartenance à une lignée, à un peuple, à un sang, à la nouvelle alliance, qui est celle de l'Esprit Saint, une alliance sans frontières, sans limites, sans conditions, sans sacrifice. Amen.